Bonsoir. La société civile de Badengaido, en territoire de Mambasa, dans la province orientale, a dénoncé cette semaine l'exploitation illicite de l'or par les gardes du parc et les FRDC dans la réserve de faune à Okapi. Selon son président, ces éléments utilisent les creuseurs qui travaillent pour leur compte dans différents foyers miniers situés dans la réserve. Et pourtant, c'est depuis l'année dernière que les creuseurs artisanaux ont été déguerpis et interdits d'exploiter de l'or dans cette réserve. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 3 juin 2015. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jean-Joseph Mapinanga, directeur chef du département technique et scientifique de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Monsieur Joseph, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Dismas Kitenge, vice-président de la Fédération internationale de droit de l'homme FIDH en sigle. Il est aussi président du groupe Lotus, une ONG de défense de droit de l'homme basée à Kisangani. Dismas Kitenge, on me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Et Célestin Massoudi, président de la société civile de Badengaido dans la province orientale. On me signale aussi qu'il n'est pas encore en ligne. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit, la société civile de Badengaido, en territoire des Mambasa dans la province orientale, dénonce l'exploitation illicite de l'or par les gardes du parc et les FRDC dans la réserve de faune à Okapi. Selon son président, ces éléments utilisent les creuseurs qui travaillent pour leur compte dans différents foyers miniers situés dans la réserve. Les autorités militaires des FRDC, les cadres de l'Institut congolais de conservation de la nature n'ont ni confirmé ni affirmer ces accusations. Isaac Remoyope pour les détails.
Certains jeunes continuent à occuper les foyers miniers, notamment des Mouchacha dans la RFO, où ils exploitent de l'or pour le compte des FARDC et des gardes du parc, affirme la société civile de Badengaido. C'est là en violation de la mesure du gouverneur de la province orientale de déguerpissement de toute la population de cette zone. Célestin Massoudi.
Les orpaels sont en train d'être utilisés par les gardes du parc et les FARDC qui sont à Ipoulou pour leur compte.
Le directeur en charge de l'audit scientifique et technique de l'ICSN, Benoît Kisuki, promet des sanctions sévères contre tout garde du parc qui encourage l'exploitation de l'or dans la réserve.
Si aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des gardes qui pensent pouvoir faire la complicité avec certains miniers qui veulent rentrer dans la réserve et continuer cette exploitation, ces gardes, lorsqu'on mettra la main sur lui, on va les révoquer sans rien à faire.
Du côté des FARDC, les autorités militaires ont promis de vérifier ces allégations. La société civile indique pour sa part que des milliers d'habitants qui ont été chassés de la réserve peuvent constituer une source d'insécurité dans la zone.
Nous craignons encore même les qui était dans le territoire de Mambasa, c'est Crézère. Parce qu'il n'a pas d'emploi, ils peuvent arriver même de couper des routes un jour, ils peuvent arriver même à aller intégrer même les groupes armés dans la forêt.
Signalons que plus de 30 000 personnes qui exploitaient de l'or dans la RFO vivent actuellement dans l'oisiveté et la misère. Bounia Isaac Remoyope, Radio Capi.
Merci Isaac Remoyope pour tous ces détails. Jean-Joseph Mapilanga, directeur chef du département technique et scientifique de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Êtes-vous au courant de cette situation?
Oui, également, madame, merci bien pour cette question. Je l'ai suivi également par voie des ondes, et qui est donc, je l'ai suivi comme vous, par voie des ondes. Mais dire que j'ai des évidences, je n'ai pas d'évidence, et que donc cette déclaration n'engage que celui qui l'a fait passer par voie des médias. Et ce sont des allégations et que donc je vais vérifier en tant qu'une branche opérationnelle de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous avons le devoir de vérifier et nous ne sommes pas à une première allégation ou quelque chose. Nous travaillons des communs accords avec le responsable de la réserve de fonds à Okapi et qui a fait chaque matin du jour au lever du soleil. En tout cas, je suis en contact avec les aires protégées d'une manière générale pour le quotidien de ce qui se passe.
Et c'est depuis lundi que la société civile a dénoncé cette exploitation illégale de l'or. Vous n'avez pas vérifié l'info depuis lundi?
Nous avons vérifié, et ce n'est pas la première allocation. Je peux, si vous me permettez, que je puisse vous donner une petite historique par rapport à ces genres d'affirmations, et d'où ça part, et quel est le contexte dans lequel ça se passe. Ce que je peux dire en tant que responsable, c'est que nous allons vérifier les faits. Et ce que nous allons demander à la personne qui a publié ces allégations, il serait beaucoup plus responsable et plus compatriote à la cause de la conservation, parce que la conservation et l'homme sont intimement liés. Il faut qu'il, en fait, nous communique les noms s'il est là, et que donc vous pouvez lui donner mon numéro de téléphone. Il peut soit me les communiquer par SMS pour me dire que non, tel garde, tel élément de c'est pas de l'armée, en tout cas, sont impliqués. Mais voici les faits.
Mais vous n'avez pas cherché à joindre la société civile pour en savoir un peu plus? Elle a dénoncé?
J'ai cherché à joindre le chef de site. Le chef de site, voici les faits. Si vous permettez que je puisse vous donner les faits. C'est que il y a un groupe de creuseurs d'or qui sont toujours dans les parages. Et certains, ils utilisent soit des mensonges pour essayer d'exprimer leur mécontentement, parce qu'il s'agit d'une perte énorme. C'est quoi, en fait? Dans la chaîne, vous y trouverez le petit creuseur d'or. Vous y trouverez également les intermédiaires ou bien les gens qui sont le petit commerce de la cigarette, de l'alcool ou d'autres produits manufacturés. Et vous trouverez un peu plus loin dans la chaîne, en fait, ceux qui se disent propriétaires des carrières ou de ces sites miniers. Et dans le processus de consolidation, après l'évacuation de ces milliers de personnes illégaux, parce que le texte est clair, la loi est claire, c'est qu'il n'y a pas d'exploitation minière dans une aire protégée conformément à la loi numéro 014-03 de relative à la conservation. Donc, on évacue ces gens, ce sont des illégaux qui sont venus envahir l'aire protégée qu'on appelle réserve de faune à Okapi, certains endroits, et plus particulièrement cette partie dont vous faites allusion, Badengaïdo, une partie sud-ouest, qui a fait, juste après les événements des attaques de 2012, il y a une sorte de paralysie de la surveillance. Et dans la phase de
puisque vous avez constaté cette paralysie de la surveillance, qu'est-ce que vous avez fait?
Dans l'approche stratégique, on y déploie en fait deux personnes de la surveillance qu'on appelle les gardes parcs. Et aujourd'hui, on nous dit que les gardes des parcs sont en train d'exploiter de l'or. Je me dirais que ce sont des présomptions. Il faut qu'on nous aide à nous communiquer les noms. Parce que par le passé, pour la petite histoire, il y a eu des gardes qui ont facilité dans d'autres sites, et ils ont été révoqués, jusque même au niveau des conservateurs ou des directeurs qui ont facilité, en fait, la loi est claire. Lorsque un agent qui est supposé réprimer, la peine est au double de la sanction qui est prévue par la loi. Et par le passé, nous avons eu à les révoquer. Et que donc, s'il s'avère au stade actuel de ces allégations qui sont portées contre le personnel de l'ICSN, en tout cas, ils seront révoqués pur et simplement.
Et donc, pour le moment, vous ne pouvez pas confirmer ces allégations ou ces accusations?
Non, nous sommes en train de mener des investigations. Je vous dis que dans la matinée, hier, j'étais en contact avec le conservateur où j'ai demandé qu'une enquête soit diligentée.
Et ça peut prendre combien de temps?
facilement des jours, des 3-4 jours, une semaine, et puis il y a toute une structure qui s'en occupe selon les statuts qui régit le personnel de l'ICSN.
Merci Monsieur Jean-Joseph Mapilanga Dismas Kitenge, vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme. Vous êtes aussi président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Bonsoir. Alors, Dismas Kitenge, comment vous analysez ou quelle lecture vous faites de cette situation? La société civile qui dénonce l'exploitation illicite de l'or par les gardes du parc et la FRDC dans la réserve de Fona Okapi, alors qu'on sait qu'il y a quelque temps, les trésors artisanaux ont été déguerpis et interdits d'exploiter de l'or dans cette réserve.
Merci beaucoup. Le premier élément à exploiter, c'est que l'information diffusée par la société civile a plus de chances d'être vraie. Pourquoi? Puisque la société civile fait partie de la population, elle a des informations sur le terrain, elle est en contact avec les diverses parties, elle vit au jour le jour ces réalités-là. C'est la première observation. Deuxièmement, c'est que cette information de la société civile mérite d'être prise au sérieux par les autorités et toutes les parties qui sont impliquées dans les aires protégées. Que ce soit le service de renseignement chez nous, que ce soit la police, que ce soit l'armée, que ce soit les autorités administratives, doivent donc profiter et saisir cette occasion pour approfondir les enquêtes et dénicher tous les réseaux mafieux. Troisièmement, c'est que quand on observe bien la situation qui se passe depuis 2 années, dans les territoires de Mambasa, que ce soit bien dans les aires protégées, on constate toujours qu'il y a une exploitation illicite des ressources naturelles. C'est un phénomène qui existe, un phénomène qui prend plusieurs ampleurs et qui est constitué de plusieurs réseaux. Il y a certains réseaux qui sont faciles à dénicher, il y en a d'autres qui sont difficiles. Pourquoi difficiles? Parce que il y a implication de certaines forces de l'État, qui ça soit être des autorités locales, ça peut être des éléments de la garde, ça peut être aussi des éléments d'FRDC, ça peut être aussi des éléments étrangers qu'on est en train de voir venir et qui sont escortés par nos forces de sécurité de l'ordre et qui exploitent ces ressources-là. C'est ça qui a justifié un peu, et ça c'est l'autre élément, que le mécontentement de la population. Aujourd'hui, une certaine perte de confiance de la population, des populations qui sont touchées par la RFO vis-à-vis des autorités congolaises et vis-à-vis de tous ceux qui représentent un peu l'État. Ça peut être l'ICSN, ça peut être la police. Alors, au regard de ce qui se passe, pour être bref, c'est que la situation est préoccupante, l'information est à prendre au sérieux et qu'il faut une investigation qui implique non seulement les autorités et les services publics, mais aussi l'implication de la société civile qui doit fournir plus d'informations sur ce qui se passe et qui doit aussi révéler et aider à résoudre ces problèmes-là aujourd'hui qui créent un mécontentement au niveau de la population.
Alors, Dismas Kitenge, c'est qu'il y a quelque temps, les trésors artisanaux ont été déguerpis et interdits d'exploiter l'or dans cette réserve. Mais il se fait qu'il y a toujours ces trésors qui exploitent illégalement. Est-ce que ça veut dire que les mesures prises par le gouvernement n'ont pas été efficaces pour protéger ces
Pourquoi
terres?
Pourquoi ces mesures ont été inefficaces? D'abord, il n'y a pas eu implication de la population, il n'y a pas eu une concertation qui devait précéder, comme nous l'avons toujours dit, les déguerpissements forcés de cette population-là. Il fallait, puisque le mal est plus profond, le problème est plus sérieux. Le problème, c'est que la population de Mambasa, qui n'a pas aujourd'hui l'accès à ses ressources naturelles au nom du parc, au nom de la RFO, mais la population est en train de voir en même temps cet État-là qui veut protéger les réserves, en même temps cet État-là qui veut que la population soit bonne, mais c'est la population qui est victime de tout. Alors la population a l'impression d'être révoltée. C'est pour cela l'État qui n'a pas de moyens de d'appliquer ces décisions qui n'impliquent pas non plus la population de, et ces créseurs-là reviennent. Les créseurs reviennent, mais en complicité avec ces mêmes autorités-là et aussi soutenus par la population qui estime que ce sont ses richesses, elle peut avoir droit à exploiter ses richesses pour avoir le développement et qu'elle ne peut pas être victime de ses richesses pour être dans la misère. C'est un peu ce dilemme-là devant lequel on est, ces contradictions-là devant lesquelles on est et qui appellent des mesures consensuelles, autorité, population pour résoudre les problèmes et clarifier bien les choses.
Alors, dis-moi, ce qui t'aimait vous parler de complicité, est-ce qu'il y a des preuves?
Pardon, je n'ai pas bien
vous
suivi.
Avez parlé tout à l'heure de complicité. Est-ce qu'il y a des preuves, complicité, qui poussent ces creuseurs de venir exploiter l'or illégalement? Est-ce qu'il y a des preuves?
Oui, il y a des éléments de preuve. Le premier élément de preuve, c'est que les circuits aujourd'hui de la vente de ces ressources naturelles, de cet or-là, ça arrive dans le comptoir. Ça arrive dans le comptoir et l'or qui vient de l'exploitation illicite passe par le comptoir et le comptoir, y compris les services aujourd'hui d'expertise de l'État, sont en train de certifier ça. Et ça, c'est le premier élément de complicité. Deuxième élément de complicité, c'est que les éléments de services publics d'ordre qui sont dépêchés sur le terrain sont aussi dans une situation difficile, sont presque délaissés, ils ne sont pas soutenus. Alors, ils pensent aussi que laisser les creuseurs entrer, qui les payent, qui leur donnent de l'argent, ça les aide aussi à survivre, puisqu'il ne suffit pas tout simplement d'envoyer les policiers, d'envoyer les éléments des FARDC sur le terrain et de les abandonner dans une région où il y a des ressources naturelles. Alors, comment ils vont se débrouiller pour tenir le coup et respecter les décisions des autorités?
C'est en faisant corrompre.
Il faut qu'on mette aussi les services des renseignements, les services de sécurité à l'abri des tentations.
Merci, des conditions normales
pour appliquer les décisions. Alors là, l'État manque le moyen pour appliquer ses propres décisions. Alors, ces gens-là se laissent corrompre par les creuseurs.
On vous redonne la parole tout à l'heure, Dismas Kitenge. La réalisation me signale que M. Célestin Massoudi est en ligne. M. Massoudi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la société civile de Badengaido, voilà. J'espère que je prononce bien. Alors, vous avez dénoncé l'exploitation illicite de l'or par les gardes du parc et les FRDC dans la réserve de faune à Okapi. Sur base de quels éléments vous accusez les gardes du parc et les FRDC?
Oui, merci de m'avoir accordé d'abord la parole. Je crois que nous tous, nous sommes appeler à parler un peu de vérité, parce que ce qui nous manque, c'est sincèrement, il n'y a pas de vérité. On a déguerpi les orpailleurs à Mouchacha en disant que c'est une réserve, parce que les orpailleurs sont en train d'envahir la réserve, et on a déguerpi ces orpailleurs. Après avoir déguerpi ces orpailleurs dans la carrière Mouchacha, par après, les orpailleurs sont restés au village Badengaido, Molokai et Salaté. Alors, il arrivait que des moments, on voyait seulement des militaires FARDC qui sont stationnés à Ipoulou et les gardes-parcs. Quand ils partaient à leur position à Pengue, ils arrivent à Badengaido, à Salaté et à Mouchacha, ils sont en train de recruter les creusers, les orpailleurs, pour aller travailler ensemble avec eux quand ils seront dans leur position, donc à Mouchacha. Alors, ils utilisaient les orpailleurs, ils sont en train de travailler avec les orpailleurs, et quand il arrive au moment de partager leur butin, parce qu'il s'est donné que, il se faisait que les orpailleurs qui travaillent avec les gardes-parcs et les militaires se partageaient 50%. Alors, c'était leur travail à tout moment où ils se retrouvaient à Mouchacha. Alors, quand ils travaillaient, il arrivait du moment où, à la partage de ses butins, il commençait encore à tirer à bout portant sur les creusers pour que la fuite ne soit pas vraiment donc dénoncée. Alors, c'est ça que le problème qui s'est passé à Mouchacha. Jusqu'à présent, ils sont en train d'utiliser les creusers. Et au moment où je suis en train de vous parler, il y a tant de creusers à Mouchacha et ils sont en connivence avec les gardes-parcs et les militaires FARDC qui sont stationnés à Ipoulou. Donc, c'est ça le problème qui se passe.
Alors, c'est une réserve.
Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des exploitations illicites. Bon, c'est ça le problème que nous, de la société civile, sommes en train de craindre. Bon, c'est quoi au juste?
Parce qu'ils ont dit que
c'est une réserve, il faut évacuer tout le monde et l'évacuation, il devrait quand même être humanitaire. Après l'évacuation, ils ont commencé à piller, à extorquer la population, tout ça, bon, de faire n'importe quoi derrière la population. C'est ça que nous sommes en train de dénoncer. Si vous avez entendu que autrefois j'avais parlé de ces problèmes, parce que on est arrivé à tuer les crésaires tous les jours à Mouchacha. Des éboulements, des effondrements dans cette carrière. Alors c'est ça le problème qui se passe aujourd'hui à Mouchacha. Donc nous sommes en train de vraiment de déplorer cette situation qui se passe à Mouchacha concernant les gardes-parc et les militaires qui sont à Ipoulou.
Alors, monsieur Massoudi, ce sont des faits que vous avez vécus ou on vous a rapporté ces faits-là par d'autres personnes?
Non, moi personnellement, je suis le président de la société civile, je dois suivre réellement à tout moment ce qui se passe. D'entrer et de sortir, je suis là, je vois ce qui se passe et même il arrive même au village à Badengaïdo pour venir vendre leur colis de l'or. Moi, je suis là, je le vois, je ne fais rien, je suis en train de voir ce qui se passe. Même au village, pour se partager leur butin, il arrive des moments où il y a des discussions entre les gardes-parc et les crésaires. Autrefois, il y avait une commission qui était sortie de Kisangani, de l'auditorat militaire, pour aller enquêter les morts des pauvres crésaires à Mouchacha. Arrivé le même jour où l'auditeur était à Badengaïdo pour commencer à faire identifier les responsables, donc les crésaires. Alors on a appréhendé un garde-parc avec un colis d'or. Il vendait à un négociant d'or. Alors les militaires, donc les PEM qui étaient venus avec cette délégation de l'auditorat militaire de Kisangani, est allé appréhender ces garde-parc et ces garde-parc était arrêté par l'auditeur et il a ravi à ses gardes-parc une somme moins de 1000 dollars et plus un coup de l'or.
Monsieur
et puis on l'a transféré pour, je ne sais pas, les sorts pour le moment et je le vois, je vois ses gardes-parc qui est en train toujours de se promener à Badengaïdo, il entre à Mouchacha, il ressort à Mouchacha, donc c'est ça le problème.
Monsieur Massoudi, puisque vous avez constaté tous ces faits, est-ce que vous avez, vous êtes la société civile, est-ce que vous avez approché l'ICCN?
Madame, comment est-ce que moi je peux aller approcher l'ICCN? L'ICCN ne veut même pas m'écouter, autrefois j'étais de passage, on devait quand même arrêter, donc l'ICCN ne veut pas que nous, la société civile, puisse un peu intervenir. J'ai pu essayer, si j'ai passé à tout moment là-bas à Ipoulou, ces gardes à la MONUSCO pour ma sécurité, donc ils ne veulent pas.
Parce que nous sommes dans ce studio avec M. Jean-Joseph Mapilanga, qui ne confirme pas toutes ces accusations. Il a besoin des preuves. Est-ce que vous avez des noms de certains gardes de parc impliqués dans cette exploitation illégale?
Bon, moi personnellement, je ne peux pas citer les noms de ces gardes-parc.
On vous demande pas d'écouter les noms.
Ils ont leur liste, ils ont la liste. À tout moment, s'il y a des rotations qui se font, des routines qui se font à Mouchacha, je crois que la liste est à Ipoulou. Tout le monde qui va à Mouchacha, au PP, à Mouchacha, donc la position de Pengue, leur position, donc ils sont recensés quand même. Ils connaissent tout le monde qui entre, tous les gardes-parc et les militaires et fardessés qui entrent dans Mouchacha. Moi, je ne peux pas les dénoncer, mais eux-mêmes connaissent.
Merci, Monsieur Massoudi. On vous redonne la parole tout à l'heure. Monsieur Jean-Joseph Mapilanga, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemie au Katanga.
Olombo Didier, docteur de Kalemie au Katanga. La décision prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo d'interdire les creuseurs artisanaux d'exploiter de l'or dans cette réserve est bonne. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que le gouvernement a songé quand même à mettre les dispositions efficaces pour bannir cette exploitation illicite? Une autre question, est-ce qu'il y avait vraiment un suivi par rapport à ça?
Monsieur Mapilangi, comment vous répondez à cet auditeur?
Merci madame. Je crois que je vais quand même faire une mise au point. Il faut baser une déclaration comme celle-là sur des faits réels. C'est plus responsable. Et je demanderai à ces intervenants qui sont en ligne de nous fournir des preuves et des noms en tant que société civile parce que nous avons fait ces opérations en incluant les activistes de la société civile, parce que ça date de longtemps. Et deuxième autre chose...
Vous l'avez suivi, Gloss qui vient vous parler de ces exploitations illégales, vous ne leur laissez pas le temps de vous parler.
Quand on dit qu'il n'a pas associé la population, non. On a donné un délai franc de 4 mois, qui a été prolongé encore de 3 mois, donc ça fait 7 mois. Depuis l'année passée. Et que donc, il faut baser un argumentaire sur des faits responsables et verdicts. Ça, c'est une mise au point que je voudrais faire. Et c'est plus responsable, comme je l'ai dit lors de ma première tranche d'intervention, que nous sommes un service de l'État, nous collaborons avec les communautés, les aires protégées sont gérées en concertation avec les communautés locales, au niveau des structures locales et au niveau des autorités coutumières. Donc, de tels faits sont graves lorsqu'ils sont vraiment verdicts. Mais alors, c'est plus le responsable qui nous transmette les noms. Alors, par rapport à l'intervenant de tout à l'heure, opération d'évacuation, une décision qui concerne l'intégrité des aires protégées. Ce n'est pas la première opération, seulement la réserve de faune à Okapi, ça se passe dans d'autres aires protégées, au Virunga, au Kahuzi-Biega, au Katanga, etc., etc. C'est en fait une mesure de gestion. Exploitation illégale, interdite par la loi, et que donc toute personne qui vient creuser ou faire une prospection, il est illégal. On décide cette décision au niveau de l'ICSN, un grand programme qui s'explique parce que tout près de nous ici à Kinshasa, on a évacué par exemple dans un village les carbonisateurs, c'est les gens qu'il faut de Makala à Bombolumene. Donc là-bas, c'était de l'or. Et que donc, on donne un délai. Un délai qui permet aux gens de quitter parce que ce ne sont pas, on suppose qu'ils ne sont pas armés. Ce sont des personnes humaines et qu'on doit respecter le droit ne fût-ce que le plus élémentaire.
Parce que ces gens sont déjà partis, monsieur Mapilanga. Mais quelles sont les dispositions efficaces pour réussir à barrer cette exploitation?
C'est par là, madame. C'est par là. Et on les évacue. Quand on les évacue volontairement, ils sont venus de quelque part. Donc, quand on dit que non, ils traînent dans les villages, mais ils sont venus de quelque part. C'est-à-dire, ils doivent retourner dans leur terroir. Les mesures de consolidation, on positionne dans ces zones qui étaient occupées illégalement par des creuseurs d'or, des groupes de surveillance, ce sont les gardes des parcs. Et étant donné pour la particularité de la réserve de faune à Okapi, qui est une zone avec des civiques armés, le gouvernement a décidé en fait d'y affecter un contingent pour appuyer l'ICSN. Et que donc, dans ces zones, on y affecte ce qu'on appelle la phase maintenant de consolidation, et ce sont ces positionnements des gardes, des positionnements mixtes des gardes et des militaires qui, en fait, assurent le monitoring de ces zones qui ont été récupérées en termes de l'interdiction de l'exploitation des carrières.
Et malgré ça continue.
Ça continue parce qu'on ne va
donc
pas faire...
Donc, ce ne sont pas des mesures efficaces?
Non, madame, je crois qu'il faut arriver sur le terrain. Moi qui suis un praticien de terrain, un professionnel de terrain, on ne va pas faire la sentinelle nuit et jour. Et ça, c'est la forêt vierge. Donc, il y a des possibilités qu'en fait, il y a des clandestins qui se filtrent en fait, dans ces zones des carrières. Et que donc, à un moment donné, on les met, on les arrête et on les achemine, on les sensibilise et on les évacue. C'est en fait une opération continuelle. Voilà pourquoi on y met des points de cantonnement. Des déviations, cela peut exister. Mais si il y a des déviations, ça fait partie de ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique de la conservation interdit, vous qui êtes un personnel qui est affecté, pour la surveillance, d'être impliqué aux activités illégales. C'est pour cela que je vous ai cité qu'il y a eu des conservateurs.
Bon, apprend qu'ils ne sont pas bien payés, c'est pourquoi ils se laissent corrompre par certains creuseurs pour aller exploiter illégalement la réserve.
Je demande des preuves. Je demande des preuves qu'on nous aide à ce que nous puissions éradiquer, stabiliser cela, parce que c'est un travail de tout le monde. Mais baser les allégations sur des faits qui n'ont pas de preuves...
Mais qui sont vous aider à bien payer tous ces gardes des parcs?
Ce n'est pas question. Moi, je demande qu'on nous aide, en fait, à dénoncer les gens qui sont impliqués. Mais il est tout à fait normal que le gouvernement, il est en train de déployer les efforts pour assurer le paiement du personnel des gardes.
Merci, monsieur Matilanga. Dismaski Tenge, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu, sud Kivu.
Jacques Lamporiki de Bukavu au sud Kivu. Ces éléments de l'armée et de la garde du parc qui creusent l'or dans des gisements interdits d'exploitation ne font que profiter de l'impunité. Tant que l'autorité congolaise ne fera pas respecter ses décisions par des sanctions exemplaires et que la justice ne fera pas bien son travail, la raison du plus fort sera toujours la meilleure dans cet état qui se dit de droit, mais manifestement sans comprendre ce que cela signifie.
Réaction d'Ismaski Tingué.
Oui, le constat fait tout de suite par cet auditeur est tout à fait vrai. Ça rejoint ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il y a des complicités et cette complicité bénéficie de l'impunité. Et quand rarement il y a des sanctions, ce sont des sanctions contre les simples agents d'exécution, alors que les cerveaux moteurs, ceux qui entretiennent ces réseaux mafieux à plusieurs niveaux, ne sont pas détectés. Et c'est pour cela que cette situation arrive. Et pour que la situation connaisse une fin, il faut l'implication de plusieurs acteurs. En premier lieu, les populations et les communautés locales, à tous les niveaux. Aujourd'hui, la faiblesse du processus, c'est que les populations ne sont pas suffisamment associées. Associées pour dénicher ce qui se passe. Associées pour comprendre pourquoi la réserve est là. Associées pour dans la garde aussi. La population, les gardes doivent bénéficier de la confiance de la population. Et les autorités qui bénéficient aussi, qui encouragent les militaires à venir garder tout ça. Mais ils doivent aussi, ces autorités doivent aussi exécuter leurs obligations de payer et d'encourager, de parler. Donc il faut améliorer la communication, il faut la communication avec toutes les parties concernées, les dialogues sincères et aussi relancer les processus vraiment qui concernent l'implication de tous pour le bien des communautés, montrer que toutes ces décisions-là en finissent, c'est les populations qui doivent en bénéficier.
Mais on a suivi M. Mapilangi qui a dit que la population était impliquée dans ce processus.
À faible niveau. La population est impliquée à faible niveau pour peut-être avoir les informations. Mais dans les processus de prise de décision, par exemple les décisions de déguerpissement, les décisions devaient être discutées suffisamment avec la population, sensibiliser la population, les impliquer même, et pour que les populations comprennent les...
Mais je crois que l'ICCN l'a fait
faiblement. L'État lui-même n'a pas les moyens de sa politique. Je crois qu'il faut impliquer la population pour qu'elle appuie l'État à exécuter ses décisions.
L'ICCN a sensibilisé la population avant le déguerpissement.
Mais la sensibilisation n'a pas été efficace. On a sensibilisé, bien sûr, la population, leur a donné les informations. Mais la population n'a pas fait confiance aux autorités. Pourquoi elle n'a pas fait confiance aux autorités? Parce qu'elle savait que les autorités veulent profiter de ça pour exploiter aussi les ressources, pour amener les étrangers. C'est que les autorités ne sont pas responsables. Elles-mêmes, elles prennent des décisions qu'elles ne sont pas à mesure d'appliquer jusqu'au bout. Alors cette contradiction-là fait ressortir à la population le doute. Faire ressortir à la population le manque de confiance, faire ressortir à la population qu'on veut nous piller, alors il faut que nos richesses aussi profitent à nous. C'est pour cela que les populations sont aussi prêtes à aider le trésor à revenir pour dire « ok, nous vivons de ça ». Mais c'est bien sûr mieux de protéger les parcs, mais aussi de veiller à ce que les populations puissent aussi bénéficier des ressources de ces parcs à divers niveaux.
Merci Dismas Kitenge, Célestin Massoudi. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province orientale.
Le gracias au Pomo depuis Kisangani. Je trouve cette déclaration injuste. Pourquoi avoir si mauvaise foi avec vos compatriotes? Toujours cette zone nous cause énormément de problèmes. L'année passée, le gouvernement avait interdit aux autochtones de ne plus y avoir accès au détriment des étrangers. Comme si cette zone a été faite pour les étrangers. Quand il s'agit de nous-mêmes, il y a des déclarations. Mais si ce sont des étrangers, les choses se font en catimini. Où? Et le président de la société civile, et les chefs locaux, et le gouvernement sont corrompus. Pourquoi nous bander les yeux par une moustiquaire?
Réaction, monsieur Massoudi.
Oui, je suis en train de suivre l'intervenant. Vraiment, c'est bon qu'il est en train de dire à ce niveau. Nous, personnellement, de la société civile, nous ne sommes pas là pour être corrompus, quel que soit. Alors, ce sont des décisions qui viennent des hiérarchies. Vraiment, nous ne sommes pas en connivence avec les autres parties prenantes pour ces décisions. Nous sommes là pour voir ce qui se passe derrière la population. La population est en train de souffrir. Normalement, elle est en train de dire que si c'était pour les étrangers, on les laisse. Mais quand il s'agit des nationaux, ils sont en train de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Nous sommes là pour voir ce qui se passe normalement. Je crois que la population de Badengaïdo vraiment est en train de souffrir. Premièrement, l'ICC n'a pas associé suffisamment informé, sensibilisé même la population. Il n'a pas sensibilisé la population. Et après ça, je crois que la population est en train de souffrir à tel niveau que jusqu'à présent, elle ne sait pas où aller, quoi faire pour le moment. Donc c'est ça le problème qui se passe à Badengaïdo. Plus de 30 000 personnes sont cantonnées au village de Badengaïdo et ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir parce qu'il n'a pas d'emploi, il n'a pas de quoi faire. La misère, la pauvreté, le chômage, tout le monde sont là. Ces opaères qui est en train de souffrir. On les tue à tout moment, on est en train de les tabasser à tout moment. Parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils sont là pour accepter de les faire aller travailler brutalement dans les carrières. C'est ça le problème qui se passe là-bas.
Alors qu'est-ce que le gouvernement devrait faire selon vous?
L'emploi, il devrait quand même être à tout moment respecter la loi qui se passe au niveau de l'ICSN.
Qu'est-ce que le gouvernement, M. Massoudi?
Il faudrait créer quand même une zone de tampon dans ces contrées-là. Parce que nous avons une loi de la conservation de la nature, le numéro 14-03 du 11 février 2014, relative à la conservation de la nature. À l'article 28, je crois que monsieur l'ADG de l'ICSN est là, je l'ai salué en passant. Il faudrait quand même créer une zone de tampon dans l'article 28. Donc c'est une loi qui est sortie récemment, promulguée par le président de la République, votée par les parlementaires et les sénateurs. Pourquoi ne pas créer une zone de tampon dans ces milieux pour qu'on puisse un peu laisser la population avoir un peu quelque chose parce qu'il n'a pas d'emploi? C'est ça le problème que nous sommes en train de se poser. L'article 28 et l'article 32.
Est-ce que vous dites, M. Massoudi?
Je crois que M. Mapilanga est là, il est celui qui connaît mieux le problème de qui s'est passé parce qu'il était à Epulu, il était le conservateur en chef là-bas, il connaissait tout ce qui s'est passé. Normalement, l'ICC n'a pas sensibilisé la population autochtone. Et puis, c'est un conflit qui est adapté avec la population autochtone. Il faudrait d'abord se dialoguer avec la population autochtone. La population ne sait pas où aller pour le moment. Il ne cultive pas, il n'a pas de champs. Il ne fait rien pour le moment.
Qu'est-ce que vous proposez?
Alors, il faut que peut-être...
Monsieur Massoudi,
à ce niveau,
Monsieur Massoudi, Monsieur Massoudi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous proposez, vous?
Moi, je propose de créer une zone tampon. Donc, il y a une zone de restriction. Donc, c'est ça que moi, je suis en train de chercher pour qu'il puisse un peu, la RFO puisse un peu faire ce que nous sommes en train de le dire. Parce que ce n'est pas nous, donc c'est les parlementaires qui ont signé et les sénateurs qui ont été promulgués par le président de la République et une zone tampon. Ça donne une zone de restriction pour la population, pour l'aménagement des communautés. C'est ça que nous sommes en train de le dire. Muchacha devrait quand même être créé, il reste quand même une zone tampon pour la population.
Et vous pensez que ça mettra fin à l'exploitation? Vous pensez que ça mettra fin à l'exploitation illicite?
Pardon, je ne suis pas, madame.
J'ai dit, vous pensez que ça mettra fin à l'exploitation illicite?
Mais, madame, si on arrive quand même à créer une zone tampon, ça ne peut pas être une exploitation illicite parce que c'est inclus dans la loi de la conservation de la nature, le projet de la loi numéro 14-003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. La population a droit quand même de vivre à la réserve. Donc c'est ça.
Merci M. Massoudi. M. Joseph Mapilanga, c'est quoi la solution aujourd'hui pour réellement mettre fin à cette exploitation illicite? Il y a M. Massoudi qui parle de cette zone tampon pour permettre à la population de se retrouver au lieu de commencer à exploiter illicitement dans la réserve de fauna au Katé.
Merci madame, c'est une bonne question, mais je crois que Massoudi, l'interlocuteur de tantôt, il doit beaucoup plus approcher l'ICSN, lui attaquer activiste de la société civile, de se renseigner. Quand il parle des 30 000 personnes qui sont à Badengaïdo, non, le chiffre des 30 000 est là, ça c'est la population autour et à l'intérieur de la réserve de Fauna Okapi. Et puis deux, c'est que ce n'est pas un parc, c'est une réserve habitée.
Et que donc, ces populations, la stratégie que l'ICCN met à place, a mis à place pour ce qui concerne particulièrement la réserve de Fona Okapi, depuis les années 90, je crois autour de 2000, 2004, 2003, en fait il a mis en place la problématique de survie des populations, c'est le zonage. Il a zoné en fait l'aire protégée qu'on appelle réserve de faune à Okapi, où il a mis trois zones à multiple usage: une zone de conservation de la nature qu'on appelle maternité des animaux vulgairement, et une zone où on doit pratiquer la chasse, et une zone où on doit faire l'agriculture, des communs accords avec les communautés locales. C'est-à-dire, chaque village a traditionnellement, dans cette zone-là, que nous traditionnellement, nous avons eu à avoir telle zone agricole. Donc, ces zones sont bien délimités avec la participation des communautés locales. Ça, c'était une approche qui a été concertée depuis les années 2002-2003. Mais l'exploitation minière, c'est la loi qui l'interdit, qui est donc en dehors des activités de survie. Mais toute autre activité qui porte atteinte à l'intégrité, c'est-à-dire aux ressources, l'exploitation minière et l'exploitation forestière, ça c'est la loi. Et l'ICCN, qui applique la loi, ne peut pas prôner, demander aux gens de venir exploiter les mines ou le bois. Non, l'ICCN, en tant qu'agence ou établissement public, qui est chargé de réprimer, en fait, de protéger l'intégrité, donc c'est là la mission, il est obligé, en fait, de réprimer cela. Donc c'est dans ses prérogatives.
Merci, monsieur Mapilanga. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Il ne reste plus beaucoup de temps pour arriver à la fin de cette émission. Dismas Kitenge, les solutions, vous avez commencé à énumérer quelques solutions. Il y a monsieur Célestin Massoudi qui a parlé de zones tampons pour permettre à la population de pouvoir se retrouver. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il y a les uns et les autres ont donné quelques pistes, mais qu'il faut enrichir. J'enrichis d'abord par, il faut vraiment un dialogue social qui doit être instauré et qui doit réunir toutes les parties autour d'une table pour aborder la question, pour répartir. Deuxièmement, je pense que les résolutions qui doivent sortir de ces dialogues sociaux-là devront être vulgarisées davantage et être aussi appuyé en moyens. Je comprends très bien ce que notre collègue dit, ce que le représentant de l'ICCN dit. Mais l'ICCN lui-même n'a pas le moyen d'appliquer ses décisions, puisqu'il faut la collaboration des autres services, de la police, de l'armée aussi, quand l'ICCN est dépassé. Alors à ce moment-là, je pense qu'il faut appliquer la loi après les dialogues, après les résolutions, appliquer la loi dans toute sa rigueur. Mais aussi, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, de soutien pour les populations, afin qu'il y ait une prise en charge de problèmes de développement qui puissent mettre tout le monde en confiance et lutter contre la pauvreté et montrer que les richesses profitent réellement aux communautés et aux populations.
Merci, Dismas Kitenge. Monsieur Massoudi, un mot pour conclure.
Oui, c'est que moi je suis en train de demander à l'ICCN qu'ils puissent un peu revoir leur décision de créer seulement une zone de tampon pour qu'on puisse un peu laisser cette population dévaquer à leurs occupations. Parce que une zone de tampon, à l'article 28 de la conservation de l'Antilles, dit que la zone de tampon fait l'objet d'aménagement indispensable au développement des communautés et de leurs activités. Mais pourquoi nous avons cette loi qui a été promulguée par le président de la République? Mais jusqu'à présent, l'ICCN ne veut pas qu'on puisse un peu parler de ça.
Merci.
La population est en train de souffrir.
Merci, monsieur Massoudi. On vous a suivi. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Alain Rung, Guy Maté, Berry Luchaka, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Alain Goy qui était à la prise de son. Au micro, Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.